Deutsche Welle, magazine environnement.
Le magazine nous amène cette semaine à Ankara, en Turquie, où s'est ouverte la COP12, la conférence des parties à la Convention sur la lutte contre la désertification. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivi Tiassou au micro. Hey, hey. À quelques semaines du sommet de Paris sur les changements climatiques, se tient dans la capitale turque une autre COP, celle portant sur la lutte contre la désertification. La conférence s'est ouverte dans une ambiance bon enfant malgré les menaces terroristes dans le pays hôte. Cette 12e édition est aussi marquée par des nouvelles alarmantes venant de la Corne de l'Afrique. Une famine qui guette les pays de la région, notamment l'Éthiopie, où 15 millions de personnes sont menacées. Situation due à une sécheresse qui a conduit à la dégradation des terres à cause d'un phénomène climatique baptisé El Niño. Pour la secrétaire exécutive de la Convention sur la désertification, Monique Barbu, lundi à la tribune, il est temps de donner beaucoup plus d'importance à la lutte contre la dégradation des terres.
Nous avançons fermement vers un consensus de plus en plus solide sur aussi l'importance intrinsèque que revêt la question des terres et sa contribution à l'agenda des solutions de Paris. Pour la première fois, la question des terres s'inscrit dans l'agenda mondial. Toutefois, une minorité doit encore être convaincue. Nous entendons tous ici et là l'expression de doutes parfois légitimes, voire de craintes infondées, exprimées même, nous dit-on, par de grands partenaires. Je reste pour ma part convaincue qu'il n'y a point dans nos forums multilatéraux de grands partenaires, sauf de grandes idées.
Amener une centaine de pays membres de la Convention à se mettre d'accord sur un test en vue de lutter efficacement contre la désertification, préserver les forêts et la diversité biologique, entre autres, n'est pas chose facile. En vue d'aider les négociateurs à bien mener les discussions, un guide a été élaboré en français et en anglais par l'Institut pour le développement durable de la francophonie. Aruna Soumaré, expert en négociation climatique, a coordonné l'élaboration de ce guide.
Dans ce guide, vous avez à la fois des éléments de contexte sur le processus de négociation, donc un peu l'historique de toutes les négociations, comme ça, ça permet aux gens d'avoir une perspective historique des négociations et de voir sur une tendance beaucoup plus longue. Vous avez un décryptage de l'ordre du jour des négociations, clé point par point, avec à la fois des références sur le document qui sont sur la table, mais aussi les questions clés qui sont discutées. Et à la fin du guide, vous avez une partie beaucoup plus méthodologique qui donne des conseils et des orientations aux négociateurs sur comment se préparer à une négociation en général. Et vous avez aussi dans le guide une liste des acronymes, parce que vous savez, dans les conventions, on utilise beaucoup d'acronymes, donc vous les avez à la fois en français et en anglais. Et enfin, vous avez des éléments de référence dans le guide.
Donc, dans ce guide, et quelqu'un qui participe pour la première fois à la COP aux négociations, après avoir lu ce guide, saura comment aborder les négociations, les discussions. Ça le met dans le bain.
Exactement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de donner tous les éléments de contexte, comme je disais tout à l'heure. Ça vous met dans le bain, vous comprenez le contexte des négociations, donc comment tout ce qui s'est passé avant la COP12 dans les discussions. Vous avez des informations sur le schéma institutionnel, les différents organes qui existent et leur mode de fonctionnement. Et on extrait les questions qui sont les questions les plus centrales et on en fait un développement beaucoup plus approfondi. Pour vraiment permettre à quelqu'un qui vient d'entrer dans la négociation d'avoir tous les éléments dont il a besoin pour commencer à se mettre dans la négociation, aller plus loin.
Et pourquoi ne pas faire un guide unique, valable pour toutes les négociations, par exemple tome 1, tome 2, ce qui éviterait que les délégués, par exemple pour cette édition, certains se sont plaints parce que les guides sont venus 2 jours après le début des négociations, même s'il existe encore beaucoup de jours.
En fait, le guide a été mis en ligne la semaine dernière sur le site de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Un des grands défis que nous avons, c'est que les négociations sont extrêmement dynamiques. Souvent, les documents de négociation, les décisions n'arrivent pas toujours à temps au même moment. Ça nous impose un certain nombre de contraintes par rapport à la préparation de ce guide-là. L'autre élément, c'est que nous avons plusieurs processus de négociation qui se passent en même temps. Vous avez des négociations qui se passent au niveau de la convention de certification, mais il y a aussi les autres conventions. Actuellement, nous sommes en train de préparer un guide similaire pour le climat. Donc, c'est une tâche que nous faisons de manière parallèle. Évidemment, bon, on va faire beaucoup plus d'efforts dans les années à venir pour rendre le guide beaucoup plus dynamique, essayer de mettre le guide en ligne beaucoup plus tôt en fonction de la dynamique des négociations pour répondre aux besoins des négociateurs francophones et des négociateurs en général qui auraient voulu avoir ce guide-là quelques semaines avant le début des COP.
Haruna Soumaré, expert en négociation climatique, est co-auteur du guide des négociations sur la désertification de l'Institut pour le développement durable de la francophonie. À Ankara, où se tient la COP12, la conférence des parties à la Convention sur la lutte contre la désertification, nous avons rencontré le directeur de l'Institut spécialisé du Comité permanent inter-État de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le CILS regroupe 9 États membres. Le professeur Boafou Kwame Guy Marcel est notre invité.
Le Centre régional Agrimet est une institution spécialisée du CILS. Entendez par là, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain?
Alors, le CILS a pour vocation de garantir la sécurité alimentaire, de lutter contre la désertification et de maîtriser l'eau en vue de promouvoir l'agriculture. Le Centre régional Agrimet, qui est une institution spécialisée du CILS, a pour vocation de produire justement des informations en matière agricole, en matière hydrologique, en matière météorologique et faire aussi de la formation à l'intention de ces États membres et bien au-delà.
Vous menez des actions sur le terrain, mais est-ce que ces actions profitent réellement aux populations à la base?
Le combat contre l'insécurité alimentaire est un vaste chantier. C'est un vaste chantier qui doit englober toutes les synergies possibles. Au niveau du CILS, qu'est-ce que nous faisons? La dégradation des terres, puisque c'est avec ces terres-là que nous produisons. Nous avons des projets pays qui aident les gens aux nouvelles techniques d'approche pour gérer durablement la terre. Et mieux, nous faisons même de la formation. Quand de la formation, tout à l'heure je l'ai dit, nous avons un master gestion durable des terres. Aujourd'hui, on parle de neutralité zéro en matière de dégradation des terres. Vous pouvez constater que ce concept est en train d'être affiné. Il faut l'enrichir. Mais progressivement, nous menons des actions sur le terrain pour que les populations puissent s'en approprier. Mais si au niveau étatique, cela n'est pas encore approprié, ce n'est pas encore bien compris, vous pouvez comprendre que notre tâche sera encore plus ardue.
Est-ce que la dégradation des terres, la dégradation zéro des terres est possible?
Alors, je ne dirais pas que c'est impossible, mais ce serait une tâche difficile. Mais ce n'est pas impossible. Quand on dit zéro neutralité, de notre compréhension, ça veut dire quoi? Ça veut dire au stade où on est, il faut stopper la dégradation des terres et chercher à restaurer les terres qui ont été dégradées. Donc initialement, on a parlé de bilan zéro dégradation des terres.
Et en la matière, quel est le bilan des pays du CILS?
Le bilan est positif puisqu'on arrive à restaurer des terres à travers des techniques qui ont été mises en place par les experts du CILS. Et ces techniques-là sont expérimentées sur le terrain. Il y a la technique de la demi-lune, du zaï, du cordon pierreux. Et lorsqu'on utilise ces techniques sur des terres anciennement dégradées qui ont été restaurées, on voit que la productivité de ces terres-là, en ces terres produits agricoles, sont nettement supérieures à ce qui était récolté par le passé.
Mais ces techniques ne sont pas des techniques nouvelles. Le zaï, demi-lune, cordon pierreux, c'est des techniques traditionnelles que les paysans pratiquaient depuis fort longtemps.
Oui, mais il faut montrer ces techniques-là à un grand nombre. De sorte qu'aujourd'hui, on a développé un concept qu'on appelle agriculture intelligente face au climat. L'agriculture intelligente face au climat veut impliquer une bonne pratique, une bonne gestion des terres en s'adaptant au changement climatique. Ce sont des techniques qui ont été élaborées et en la matière, le CILS est pionnier.
Mais en la matière aussi, il y a un manque de communication. Est-ce que tous les paysans de votre région, des pays couverts par le CILS, est-ce que les populations, toutes les populations sont informées à ce sujet?
Le CILS est une organisation régionale. nous mettons nos techniques élaborées à la disposition des structures compétentes nationales.
Et maintenant, c'est assez...
Tout maintenant doit faire une réplication au niveau national et local. Pour le cas du Niger, je sais qu'il y a eu 40 000 hectares de terres dégradées récupérées grâce à nos techniques mises en œuvre.
Et en combien d'années ?
En peu de temps, en moins de 5 ans.
Donc aujourd'hui, le Niger est un exemple en la matière.
Aussi bien le Niger, le Burkina et le Sénégal, ce sont des exemples à citer.
Donc le Niger ne sera plus inquiété par l'insécurité alimentaire.
Malheureusement, on ne peut pas que le Niger ne peut pas être inquiété puisque le problème de dégradation des terres est lié au phénomène de changement climatique. Le phénomène de changement climatique lui-même est lié aux effets de serre. Et les gaz à effet de serre sont produits en moindre quantité par l'Afrique, mais produits en quantité énorme par les pays développés. Mais malheureusement, c'est l'Afrique qui en pâtit le plus. Donc vous voyez qu'à notre niveau, on n'a même pas d'efforts à faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est plutôt du côté des pays développés qu'il faut regarder.
C'était le professeur Boafou Kouame Guy Marcel, directeur de l'Institut spécialisé du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le CILS, une organisation qui regroupe 9 États membres. Merci de nous avoir suivis. Ce magazine a été enregistré au Grand Centre de conférence d'Ankara en Turquie. Kossivit Yassou au micro et restez toujours à l'écoute. C'est de la Deutsche Welle.